Chapitre 3. Il ne faisait pas sombre. Des projecteurs avaient été installés dans un coin, des réglettes d'éclairage pendaient du plafond. Les techniciens de scène de crime avaient besoin de beaucoup de lumière pour accomplir leur difficile travail. Regardant droit devant lui, respirant par la bouche, le souffle court, Bobby analysait peu à peu la scène. La cavité était profonde, au moins 2 mètres de haut. Il tenait facilement debout. Assez large pour 3 personnes de front, elle s'étendait devant lui sur une longueur de près de 2 corps. Pas une simple crevasse, se dit-il tout de suite, une cavité creusée délibérément et avec application. Il faisait frais, mais pas froid. Cela lui rappela des grottes qu'il avait visitées en Virginie. L'air était constamment à 13 degrés, comme dans une chambre froide. L'odeur, pas si mauvaise qu'il l'avait craint, terreuse, avec un très léger relent de décomposition. Quoi qu'il se soit passé ici, c'était presque fini maintenant, d'où la présence de l'anthropologue judiciaire. Il toucha une paroi de terre de sa main gantée. Elle était compacte, légèrement striée. Pas assez bosselée pour avoir été façonnée à la pelle, le volume était sans doute trop important pour ce genre de travail de toute façon. À vue de nez, cette caverne avait dû être creusée au tractopelle à l'origine. Peut-être un puisard habilement reconverti à d'autres fins. Il fit un pas, arriva au premier pilier, une vieille poutre de colombage toute fendue. Elle faisait partie d'un étayage rudimentaire qui courait au plafond de la pièce. Il y avait un second pilier 1 mètre après le premier. Il tâta le plafond du bout des doigts, pas de la terre, du contreplaqué. Didi surprit son geste. « Tout le plafond est en bois, » expliqua-t-elle. Recouvert de terre et de décombres, sauf l'entrée où il a laissé un panneau de bois à découvert qu'il pouvait ouvrir et fermer. Quand on est arrivé, on aurait dit des gravats quelconques au milieu d'un pré à l'abandon. Impossible de deviner. Impossible de savoir. Elle soupira, baissa les yeux, puis sembla essayer de se secouer. Bobby eut un bref hochement de tête. L'endroit était assez dépouillé, meublé de façon spartiate. Près de l'échelle, un vieux seau de 15 litres dont l'inscription était si effacée par le temps qu'il n'en restait que de vagues traces. Une chaise métallique repliée, les coins tachés de rouille, posés contre le mur gauche. Une étagère en métal courait sur toute la longueur du mur du fond, fermée par des stores en bambou à 2 doigts de tomber en poussière. « L'échelle d'origine ? » demanda-t-il. « Chaîne métallique, » répondit Didi. « Déjà mise sous scellé. »
« Un panneau de contreplaqué fermait l'entrée, tu dis. Vous avez trouvé des bâtons corrects dans le coin ?»«
Un d'environ 1 mètre de long, 4 centimètres de diamètre. Écorcé. Fait levier avec le panneau de contreplaqué à peu près comme on s'y attendrait. »
« Et les étagères ?» demanda-t-il en faisant un pas vers elle.
« Pas encore, » répondit brusquement Didi. Il dissimula sa surprise en haussant les épaules, puis se tourna vers Didi. C'était son enquête après tout.
« Je ne vois pas beaucoup de plots d'indices, » dit-il enfin.
C'était vide à ce point, comme si le type avait fermé derrière lui. Il s'en est servi. Un bon moment, je parierais, et puis un jour, il est tout simplement passé à autre chose. Bobby observa attentivement Didi, mais elle ne poursuivit pas.
« Ça paraît ancien, » remarqua-t-il.
« Abandonné, » précisa Didi.
« Vous avez une date ?»«
Rien de scientifique. Il va falloir attendre le rapport de Christie. » Il patienta à nouveau, mais cette fois encore, elle se refusa à fournir d'autres explications.
« Bon, d'accord, » dit-il après quelques instants. « Ça lui ressemble, mais toi et moi, on n'a que des informations de seconde main. Tu as contacté les enquêteurs qui ont bossé sur la première scène ?»«
Je suis là depuis minuit, je n'ai pas encore eu le temps de jeter un œil à l'ancienne affaire. Mais enfin, ça remonte à un paquet d'années. Ceux qui s'en sont occupés sont probablement à la retraite maintenant. »
18 novembre 1980, souffla Bobby. La bouche de Didi se contracta.
« Je savais que tu t'en souviendrais, » murmura-t-elle amèrement. Elle se redressa. « Quoi d'autre ?»
La cavité était plus petite, 1,50 m sur 2. Dans mon souvenir, le rapport de police ne parlait pas de piliers. Je crois qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'elle était moins élaborée que celle-ci.
« Seigneur. » Ce n'est quand même pas la même chose de le lire et de le voir. Il tâta à nouveau la paroi, sentit la terre bien tassée. Catherine Gagnon, 12 ans,
avait passé près d'un mois dans cette première prison de terre, dans un vide noir hors du temps rompu par les seules visites de son ravisseur, Richard Umbrio, qui la gardait comme esclave sexuelle. Des chasseurs l'avaient découverte par hasard peu avant Thanksgiving. Ils avaient donné de petits coups sur le plafond en contreplaqué et avaient eu la surprise d'entendre des cris assourdis en dessous. Catherine avait été sauvée, Umbrio envoyé en prison. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais non. « Je ne me rappelle pas qu'il ait été question d'autres victimes au procès d'Umbrio, » dit Didi. « Non, mais ça ne veut pas dire que c'était la première fois. » « Non. Elle était peut-être sa 7e, 8e, 9e, 10e victime. Il n'était pas du genre bavard, alors tout est possible. »«
C'est sûr. Tout est possible. »
Il entendit ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Et ce n'est pas comme si on pouvait l'interroger. Umbrio était mort 2 ans plus tôt, abattu par Catherine Gagnon dans des circonstances qui avaient sonné le glas de la carrière de Bobby au sein des forces spéciales. Étrange de voir comme certains crimes refaisaient toujours surface, même des décennies après. Le regard de Bobby se tourna à nouveau vers les étagères fermées que Didi, remarqua-t-il, évitait encore. Elle ne l'avait pas appelé à 2 heures du matin pour voir une cavité souterraine. La police de Boston n'avait pas déclenché le branle-bas de combat général pour une fosse quasi vide. «
Didi ?» demanda-t-il.
Elle hocha enfin la tête. « Autant que tu vois ça par toi-même. Bobby, voilà celles qui n'ont pas été sauvées. Celles qui sont restées en bas dans le noir. » Bobby manipula les stores avec précaution. Sous ses doigts, les cordelettes semblaient vieilles, pourrissantes. Certains des petits morceaux de bambou entrecroisés se fendaient, se brisaient sur les fils, de sorte que le store était difficile à enrouler. L'odeur de décomposition était plus forte ici. Douce, presque vinaigrée. Ses mains tremblaient malgré lui et il devait faire un effort pour calmer les battements de son cœur. Être dans le moment, mais hors du moment. Détaché. Posé. Concentré. Le premier store remonta, puis le deuxième. Ce qui l'aida le plus finalement, ce fut la pure incompréhension. Des sacs. Des sacs poubelles en plastique transparent. 6. 3 sur l'étagère du haut, 3 sur celle du bas, côte à côte, soigneusement fermés au sommet. Des sacs. 6. En plastique transparent. Il recula en titubant. Il n'y avait pas de mots. Il sentit sa bouche s'ouvrir, mais rien ne se passa. Rien ne sortit. Il ne faisait que regarder. Regarder, et regarder encore, parce qu'une telle chose ne pouvait pas exister. Une telle chose ne pouvait pas être. Son esprit voyait la chose, la rejetait, puis revoyait l'image et résistait à nouveau. Il ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Son dos heurta l'échelle. Les mains derrière lui, il agrippa les barreaux métalliques froids avec tant de force qu'il sentit les arêtes mordre la chair de ses mains. Il se concentra sur cette sensation, la douleur aiguë. Cela lui donnait un ancrage. Cela le dispensait de hurler. Didi montra le plafond où une des réglettes d'éclairage avait été suspendue. « Nous n'avons pas rajouté ces 2 crochets, » dit-elle doucement. « Ils y étaient déjà. » Nous n'avons pas trouvé de lanterne qu'il aurait laissée, mais j'imagine... « Ouais, » dit brutalement Bobby, qui respirait toujours par la bouche.
« Ouais. »
« Et la chaise, bien sûr. »«
Ouais. »« Ouais. Et la foutue chaise. »
« C'est... c'est de la momification naturelle, » expliqua Didi d'une voix mal assurée qui cherchait à se maîtriser. « C'est le mot qu'a employé Christie. » Il a ligoté les corps, il les a mis chacun dans un sac poubelle, puis il a noué le haut. Quand la décomposition a commencé, eh bien, les fluides n'avaient nulle part où aller. En gros, les corps ont mariné dans leur propre jus.
Salopard.
Je déteste mon boulot, Bobby, murmura soudain Didi, sans détour. Oh bon Dieu, je n'ai jamais voulu voir une chose pareille. Elle mit sa main devant sa bouche. Un instant, il pensa qu'elle allait peut-être craquer, mais elle se reprit, continua bravement. Tout en se détournant des étagères métalliques, même pour un policier aguerri, certaines choses sont trop difficiles. Bobby dut se forcer à lâcher les barreaux de l'échelle métallique. « On devrait remonter, » dit brusquement Didi. « Christy est probablement en train d'attendre. Elle avait juste besoin d'aller chercher les housses mortuaires. »«
D'accord. » Mais il ne se tourna pas vers l'échelle. Au contraire, il retourna vers les étagères métalliques mises à nu, vers une vision que son esprit refusait mais qu'il n'oublierait plus jamais. Les corps avaient pris une teinte acajou au fil du temps. Ce n'étaient pas les enveloppes vides et desséchées qu'il avait vues dans des expositions de momies égyptiennes. Ils étaient robustes, presque tannés en apparence, chacun de leurs traits encore visibles. Il pouvait suivre les longues lignes noueuses de bras d'une incroyable maigreur autour de jambes délicatement arrondies, les genoux pliés. Il pouvait compter 10 doigts repliés près des chevilles. Il voyait chacun des visages, le creux de leurs joues, le bout pointu de leur menton posé sur leurs genoux. Leurs yeux étaient fermés, leurs bouches pincées. Les cheveux plaqués sur le crâne, de longues mèches ternes recouvrant leurs épaules. Des corps petits, nus, féminins. Des enfants, juste des fillettes recroquevillées dans des sacs poubelles transparents dont elles ne s'échapperaient jamais. Il comprenait maintenant pourquoi les enquêteurs ne disaient pas un mot là-haut. Il tendit une main gantée et effleura le premier sac. Il ne savait pas pourquoi. Rien qu'il puisse dire, rien qu'il puisse faire. Ses doigts trouvèrent une fine chaîne métallique. Il la sortit des plis au sommet du sac pour découvrir un petit médaillon en argent. On y lisait seulement un nom. Annabelle M. Granger. Il les étiquetait, proféra Bobby avec violence. C'était plutôt comme des trophées. Didi était venue derrière lui. Elle tendit ses mains gantées vers l'arrière d'un deuxième sac et révéla précautionneusement un petit nounours tout abîmé au bout d'une ficelle. « Je crois... Enfin, je ne sais pas, mais chaque sac a un objet. Quelque chose d'important pour lui. Ou quelque chose d'important pour elle.
Seigneur. »
La main de Didi était venue se poser sur son épaule. Il ne s'était pas aperçu combien ses mâchoires étaient contractées avant qu'elle ne le touche. « Il faut qu'on remonte, Bobby. »«
Ouais.
Christy doit se mettre au boulot. »«
Ouais. » »«
Bobby ?» Il retira sa main. Les regarda une dernière fois, ressentant la nécessité, le besoin de graver chaque image dans son cerveau. Comme si cela devait les réconforter de savoir qu'elle ne serait pas oubliée. Comme s'il était encore important pour elle de savoir qu'elle n'était pas seule dans le noir. Il retourna vers l'échelle. Sa gorge le brûlait. Il ne pouvait pas parler. 3 profondes inspirations, et il réémergea à la surface, sous la bâche bleu clair. Dans la nuit fraîche et brumeuse. Dans la lumière des projecteurs, dans le bruit des hélicoptères de la télé qui avaient fini par avoir vent de l'histoire et qui tournoyaient désormais dans le ciel au-dessus d'eux. Bobby ne rentra pas chez lui. Il aurait pu. Il était venu pour rendre service à Didi. Il avait confirmé ses soupçons. Personne n'aurait rien trouvé à redire à ce qu'il parte. Il se versa une tasse de café chaud près de la camionnette de l'identité judiciaire. S'appuya un moment contre le côté du véhicule, enveloppé dans le bruit de fond assourdissant du groupe électrogène. Il ne but jamais le café, se contenta de faire tourner indéfiniment la tasse entre ses doigts tremblants. 6 heures du matin arrivèrent, le soleil commença à poindre à l'horizon. Christy et son assistant remontèrent les corps, désormais enfermés dans des housses mortuaires noires. On pouvait mettre 3 dépouilles sur un brancard, ça faisait 2 voyages jusqu'à la camionnette du légiste. Le premier arrêt serait le labo de la police de Boston, où les sacs poubelles contenant chacun des corps seraient fumigés, à la recherche d'empreintes. Ensuite, les dépouilles poursuivraient leur périple jusqu'au labo du service de médecine légale, où l'autopsie commencerait enfin. Lorsque Christy s'en alla, la plupart des enquêteurs en firent autant. Sur une scène de ce genre, c'était l'anthropologue judiciaire le patron, et il ne restait donc pas grand-chose à faire après le départ de Callahan. Bobby bazarda son café froid, lança le gobelet dans la poubelle. Il attendait sur le siège passager dans la voiture de Didi quand elle ressortit enfin du bois. Et là, parce qu'ils s'étaient aimés à une époque, parce qu'ils avaient même été amis après cela, il attira sa tête sur son épaule et la tint dans ses bras pendant qu'elle pleurait.